Bonsoir à toutes et à tous. Direction Strasbourg dès le début de ce journal, 3 jours après l'attaque. Le bilan s'est alourdi à 4 morts aujourd'hui. La ville est toujours sous le choc, mais la vie reprend. Le marché de Noël a pu rouvrir tout à l'heure. Reportage de Mathilde Dehimi à suivre. Nous ferons aussi un point sur l'enquête. L'autre actualité, elle est dans la rue. Mobilisation à l'appel de la CGT aujourd'hui, avant celle des Gilets jaunes demain. On entendra Philippe Martinez appeler à des actions collectives. Nous irons ensuite à Bruxelles pour un Conseil européen consacré à la réforme de la zone euro, conseil suivi par Bertrand Galichet pour France Culture. Et puis l'enquête de cette édition, la suite des révélations dans le cadre des Implant Files. Ce scandale du laxisme en matière de sécurité sanitaire, ce sera avec Laetitia Chérel. Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre à Strasbourg, 3 jours après l'attaque sur le marché de Noël et au lendemain de la mort de Chérif Chekat, le tireur présumé. Le chef de l'État, qui revient d'un conseil européen à Bruxelles, devrait rencontrer des proches des victimes et rendre hommage aux personnes décédées ou blessées. Le bilan de l'attaque de mardi soir s'est encore alourdi. Une 4e personne a succombé à ses blessures, un journaliste italien. Emmanuel Macron retrouvera Christophe Castaner tout à l'heure. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur le marché de Noël qui venait de rouvrir ses chalets, sous haute sécurité bien sûr. Sur place, les commerçants peuvent enfin souffler. Écoutez le reportage de Mathilde Dehimi.
Comme un cri du cœur et la voix déjà bien chauffée dès le matin, le stand vin chaud proclame l'ouverture. Valérie est l'une des premières Strasbourgeoises à se promener au milieu des étals. Elle hésite entre 2 figurines pour son sapin de Noël.
Ça fait du bien, ça réconforte et puis on espère que c'est fini, voilà. Nous, on ne peut juste pas imaginer Noël sans le marché de Noël. C'est toute notre tradition. On espérait vraiment que ça allait rouvrir.
Les touristes sont là. Renée est arrivée samedi dernier, heureuse de voir enfin des chalets ouverts.
Oui, avec joie, parce qu'on a eu peur un petit peu de repartir sans pouvoir le visiter, quoi. Et c'est avec joie, mais avec peine un peu, avec tout ce qui s'est passé. C'est tellement féerique, tellement joli, qu'on est émerveillé un petit peu par toutes ces lumières, cette fête d'ambiance, ces petits santons, enfin tout est joli.
Les commerçants du marché sont soulagés, comme Françoise, 35 ans dans la choucroute et les flammes-cuches.
On avait toujours une appréhension, mais maintenant qu'il est mort, voilà, ça va. On a une pensée pour les blessés et les morts, les pauvres. Les gens sont bien, ils sont joyeux, donc j'espère que ça va continuer. Mais là, il y a l'air d'avoir du monde, donc ils reviennent. C'est ça qui est bien.
La vie reprend son cours au marché de Noël, avec une sécurité renforcée, moins de points d'accès à l'hypercentre-ville, des horaires modifiés et des patrouilles mobiles dans les rues.
Reportage de Mathilde Dehimi à Strasbourg pour France Culture. Si la menace est écartée, l'enquête, elle, n'est pas terminée. Bonsoir Thomas Larabi.
Bonsoir Alexandra Dubouchon.
Alors ce soir, il y a toujours beaucoup de questions. Chérif Chekat a-t-il bénéficié de complices, de soutien pendant sa cavale? Les enquêteurs se concentrent pour l'instant sur son entourage, Thomas.
Oui, 7 personnes de l'entourage de Chérif Chekat sont actuellement entendues par les enquêteurs. 4 membres de sa famille, ses parents et 2 de ses frères, dont un est connu des services de police pour radicalisation. 3 autres personnes faisant partie du cercle proches de Chérif Chekat sont également en garde à vue. Des gardes à vue qui peuvent aller jusqu'à 96 heures, même prolongeables de 48 heures, soit un total de 6 jours en cas de risque actuel et avéré d'actes terroristes. Les faisceaux sont également braqués sur le 3e frère du terroriste, Sami Chekat, fiché S, et visé par un mandat de recherche depuis hier. Selon certaines sources proches de l'enquête, il aurait été appréhendé ce matin en Algérie. Enfin, la téléphonie de Chérif Chekat ainsi que tout son matériel numérique sont décortiqués. Les armes retrouvées sur lui, un vieux revolver de calibre 8 et un couteau, les mêmes d'ailleurs que celles utilisées au marché de Noël, sont étudiés. On tente de retracer leur parcours. L'objectif, comme l'a rappelé le procureur de Paris, Rémy Hetz, ce matin, est d'abord de savoir si le terroriste a été aidé pendant sa cavale ces 2 derniers jours, mais également de déterminer s'il a été assisté ou encouragé dans son passage à l'acte. Car dans les faits stricts, pour le moment, Chérif Chekat ressemble à un homme seul. Seul pendant la fusillade, mardi soir, à l'issue de laquelle il monte dans un taxi. Seul lorsqu'il est repéré hier après-midi par 2 témoins dans le quartier de Neudorf. Seul encore lorsqu'il est abattu par les policiers aux alentours de 21h.
Merci Thomas Larabi. Les gilets jaunes maintiennent la pression malgré les mesures annoncées par Emmanuel Macron, malgré les appels du gouvernement à suspendre le mouvement. Beaucoup se préparent à l'acte 5 demain à Paris et en région. Dans la capitale, le dispositif policier sera semblable à celui de la semaine dernière. 8000 forces de l'ordre, 14 véhicules blindés à roues. C'est ce qu'a indiqué ce matin le préfet de police de Paris. Il y a les gilets jaunes et les gilets rouges de la CGT. CGT, le syndicat, appelait aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation, de grève et de manifestation à travers la France pour défendre le pouvoir d'achat. Ce même pouvoir d'achat que défendent les Gilets jaunes. Mais les deux sont complémentaires. C'est le message que Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat, a tenté de faire passer toute la journée. Tendez l'oreille car la sono est assez forte derrière.
Les mobilisations ne s'opposent pas et c'est bien qu'il y ait des actions collectives avec des gilets jaunes, des gilets rouges ou des gilets bleus, peu importe. Mais on a retrouvé le sens de l'action collective. La manière de faire, c'est d'être plus nombreux en grève. Il faut être dans la rue, évidemment, le samedi, la semaine. Mais les seuls épargnés des annonces du président de la République, c'est le MEDEF.
Philippe Martinez, le patron de la CGT dans le cortège parisien. En tout cas, le message semble avoir été entendu. Il faut dire que d'autres syndicats avaient appelé à rejoindre le mouvement, comme Solidaire et la FSU, des fédérations de FO aussi, les syndicats étudiants LUNEF et lycéens LUNEL. Fonctionnaires et salariés du privé, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans toute la France. On a aussi vu des politiques, communistes, insoumis et membres du nouveau parti anticapitaliste. Ils étaient 2500 à Lyon, 1400 à Saint-Étienne et Grenoble, selon la police. Voilà les premiers chiffres. À Paris, les organisateurs ont compté 15 000 manifestants. Audrey Morellato a suivi le cortège pour France Culture.
Les drapeaux rouges de la CGT n'étaient pas minoritaires, mais presque. De nombreux manifestants ont répondu à l'appel du syndicat sans y être affiliés, tout simplement parce que leurs revendications se croisent. Julien Boieldieu est le secrétaire national de la CGT au ministère du Travail.
Tout ça, ça ne se soustrait pas, mais ça s'additionne. Donc si on peut être tous ensemble dans la rue au même moment... Gilets jaunes, salariés du public, salariés du privé, lycéens et jeunes, ça montrera au gouvernement, au contraire, qu'on forme une masse unie contre sa politique.
Renata, justement, n'est pas syndiquée. Elle travaille pour les instances européennes, mais elle tenait à être là pour envoyer un message au gouvernement et tenter de faire entendre le message des plus petits, parce que plus on est nombreux, plus on crie fort.
Ah ben c'est le peuple ! Et il faut que les gens qui nous gouvernent sortent des fois dans la rue. Non, on ne va pas seulement les policiers ou les préfets regarder ce qui se passe dans le pays, mais qu'ils sortent et qu'ils regardent. Ben, le peuple est dans la rue.
À cela se sont aussi ajoutés les étudiants et lycéens qui ont même pris la tête du cortège. Le message est un peu brouillé, mais il en ressort une colère commune et un ras-le-bol qui s'exprimeront peut-être encore demain à l'appel des Gilets jaunes cette fois.
Les lycéens et étudiants qui dénoncent, eux, surtout la réforme de l'accès à l'université et du bac. À noter que cet après-midi, il n'y a plus que 61 lycées perturbés contre 188 hier à la même heure. Une douzaine sont toujours totalement bloqués. Quant à la CGT, elle appelle à une nouvelle journée d'action le 18 décembre. En attendant, le gouvernement, lui, est concentré sur sa grande concertation sur la transition écologique et le pouvoir d'achat. C'était la première réponse d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes. Sauf que cette concertation devait être présentée demain. Elle est finalement reportée. Bonsoir Élodie Rabel.
Bonsoir.
Du service politique de France Culture. Comment l'exécutif justifie ce report, Élodie ?
Alors selon une source à Matignon, Chantal Joanneau, qui pilote ce débat public, a besoin de temps, du temps pour rencontrer d'autres gilets jaunes. Une communauté, c'est vrai, assez disparate, protéiforme aux revendications multiples. Matignon assume en disant que de toute façon, les débats ont déjà commencé. Au niveau national avec les syndicats et au niveau très local avec les mairies rurales qui ont déjà pris des initiatives. Un report qui laisse tout de même dubitatif avec une première polémique sur l'immigration cette semaine. L'immigration dans la mondialisation qui devait être la cinquième grande question de cette concertation. Sauf qu'hier, elle a été plus ou moins retirée du débat au profit d'un thème qui sera intégré dans la question de la démocratie. Édouard Philippe s'est justifié lors d'une rencontre organisée par l'association Ville de France. Il aurait même fait allusion au débat sur l'identité nationale pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, un débat qui n'aurait pas été un succès selon lui. À la veille du cinquième acte, la grande concertation qui doit répondre à la crise des Gilets jaunes semble démarrer laborieusement. On attend donc la clarté de l'ambition la semaine prochaine avec Chantal Joanneau.
Élodie Rabel. En tout cas, cette concertation aura bien lieu. C'est ce qu'a affirmé tout à l'heure Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'exprimait à la sortie du Conseil européen de Bruxelles. Ultime tentative pour tenter de dissuader les Gilets jaunes de sortir dans les rues demain.
La raison, le sens de l'intérêt général, conduirait chacune et chacun maintenant à s'inscrire dans un débat national et des échanges avec leur maire. La capacité à formuler des propositions politiques et à s'inscrire dans le processus démocratique, plutôt qu'à considérer que les revendications ont vocation à changer et à durer dans la rue. Nous avons des formes d'expression ensuite de ces malaises. Elles sont organisées dans une démocratie. Ça s'appelle les élections. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, d'ordre. Il a besoin de retrouver un fonctionnement normal.
Emmanuel Macron depuis Bruxelles cet après-midi. 18h10 sur France Culture, on reste à Bruxelles pour suivre le Conseil européen avec Bertrand Galichet, envoyé spécial de France Culture sur place. Après une soirée consacrée hier au Brexit, les 27 se sont retrouvés aujourd'hui pour parler de la réforme de la zone euro. Et malgré les crispations, Bertrand, ils ont réussi à s'entendre.
Ce n'est pas la réforme dont rêvait la France, mais pour le président de la République, c'est un pas en avant, la création d'un budget de la zone euro, prudemment appelé « instrument budgétaire » afin de ne pas froisser les pays les plus réticents menés par les Pays-Bas, est désormais acté. Les conservateurs allemands eux-mêmes ont beaucoup freiné en sous-main l'initiative française. À l'issue de ce Conseil européen, Emmanuel Macron y voit le franchissement d'une étape importante, donc des perspectives pour l'avenir. Le président rappelle que ce projet était jugé impossible il y a un an et insiste sur le rôle de convergence et de compétitivité du nouvel outil. Avec ce premier budget, la France devra se contenter d'un montant limité qui devra être intégré à l'intérieur du budget de l'Union européenne et dont l'enveloppe reste à négocier. Pour l'instant, les propositions françaises de nommer un ministre des Finances de la zone euro et de créer un fonds monétaire européen n'ont pas abouti. Emmanuel Macron parle quand même d'avancer et veut pousser une fonction de stabilisation de cet instrument budgétaire. Les ministres des Finances ont 6 mois pour plancher sur le budget de la zone euro. Leur conclusion devrait être connue après les élections européennes.
Bertrand Galichet, envoyé spécial à Bruxelles pour France Culture. Le Brexit est toujours en toile de fond de ces réunions au sommet et la menace d'une sortie sans accord. Tout à l'heure, la première ministre britannique Theresa May a affirmé qu'il y aurait des discussions dans les prochains jours avec les 27 pour obtenir de nouvelles garanties. C'est une première en Europe. L'Allemagne légalise le troisième genre. Les députés ont approuvé aujourd'hui un texte de loi sur les certificats de naissance à côté de féminin ou masculin. Il pourra donc être mentionné divers. Une détention de migrants qui vire au drame aux États-Unis. Une jeune Guatémaltèque de 7 ans est morte quelques heures après avoir été placée en détention par la police aux frontières américaines dans l'État du Nouveau-Mexique. Alors que la lutte contre l'immigration clandestine est l'un des étendards de la présidence de Donald Trump, cette affaire suscite l'indignation. Grégory Phillips.
La fillette, âgée de 7 ans, venait de traverser la frontière avec un groupe de 162 autres personnes, dont son père à hauteur de Lordsburg, dans l'état du Nouveau-Mexique. À 22h, ce 6 décembre, le groupe de migrants est placé en détention. 8h plus tard, l'enfant souffre d'une forte fièvre. Elle est apparemment déshydratée et prise de convulsions. La police aux frontières explique que la petite fille n'avait sans doute pas bu ni mangé depuis des jours. Elle meurt à l'hôpital. Les associations de défense des droits de l'homme réclament une enquête, veulent savoir si à son arrivée au centre de rétention, l'enfant a reçu de l'eau et de la nourriture ou des premiers soins. Les associations de soutien aux migrants expliquent aussi que les bâtiments où ces étrangers sont placés sont anciens, pas adaptés aux familles et aux jeunes enfants. Ce drame, en tout cas, illustre les risques que ces migrants prennent pour traverser la frontière, marchant parfois dans le désert pendant plusieurs jours, et aussi les mauvaises conditions d'accueil qui leur sont réservées quand ils parviennent sur le sol américain.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. Dernière ligne droite officiellement pour la COP24. La conférence climat de l'ONU doit achever ses travaux aujourd'hui à Katowice, en Pologne. Mais comme c'est un peu la tradition désormais, les négociateurs pourraient encore discuter demain pour finaliser un accord sur l'application de l'accord de Paris. Pour beaucoup, son nom est associé à naufrage industriel, voire à malédiction. L'EPR pour réacteur pressurisé européen, troisième génération, eh bien c'est fait. Le premier réacteur nucléaire EPR, technologie française, est entrée en service. C'était hier soir en Chine, à Taishan, dans le sud. L'annonce a été faite tout à l'heure depuis Pékin lors d'une conférence de presse franco-chinoise. Les précisions sur place de notre correspondante Dominique André.
Depuis hier soir, l'EPR de troisième génération de Taishan alimente en électricité la population chinoise de la province du Guangdong. C'est un événement pour EDF qui est actionnaire à 30% de la co-entreprise montée avec la Chine. La construction de ce premier réacteur EPR avait commencé en 2009. Fabrice Fourcade, président d'EDF en Chine, répondait aujourd'hui à la presse étrangère et chinoise lors d'une conférence organisée par le Conseil d'État chinois.
C'est le jour J pour Taishan. Taishan étant en exploitation commerciale sur le réseau du sud de la Chine. Donc Taishan sert de l'électricité sans carbone à 5 millions de Chinois.
L'EPR est issu de la technologie française, mais c'est toute une filière professionnelle qui est concernée.
À la fin des années 2000, on a décidé d'exporter cette technologie en Finlande. Elle est exportée ici en Chine au bénéfice de la Chine, mais c'est aussi la promotion de la filière française, donc de la technologie Framatome. Et derrière, il y a 37 entreprises françaises qui ont vendu des équipements au projet Taishan.
EDF aimerait poursuivre l'aventure en Chine. Le nucléaire, c'est 4% de l'électricité aujourd'hui. D'ici 2030, ce sera deux fois plus.
18h15 sur France Culture, voici comme chaque vendredi dans le journal de France Culture l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France. Retour sur les implant files, cette enquête sur les implants médicaux menée avec le consortium international de journalisme, de journalistes d'investigation. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
Alors il y a 15 jours, Laetitia, vous nous expliquiez que Medtronic, le géant américain des implants médicaux, prenait pied dans les hôpitaux français. Et ce soir, vous nous apprenez que l'industriel veut aller plus loin. Il veut convaincre les autorités qu'il faut réformer notre système de santé.
Oui, et pour ça, Medtronic s'appuie sur un concept un peu flou qu'il appelle la valeur en santé. Alors, officiellement, il s'agit de réinventer la prestation de soins, c'est-à-dire de prendre en considération non pas un produit, mais le bien-être qui est censé engendrer ce produit. Mais derrière ces intentions louables, Medtronic propose en fait de revoir la façon dont on fixe le prix de ces produits. Écoutez Laurence Contarassu, PDG de Medtronic France, dans un colloque en mai dernier.
Pour un industriel comme Medtronic, au lieu d'être payé au nombre de boîtes que l'on va réussir à vendre, on veut être payé sur le résultat qui importe aux patients de nos technologies et de nos solutions. Tout ça pour pouvoir proposer des solutions au système de santé.
Et sa solution consisterait à vendre ses produits plus chers?
Oui, parce que si au coût du produit, vous ajoutez le coût du bien-être qu'il procure, ça fait forcément monter la facture. En tout cas, pour Anne Chailleux, vice-présidente de Formindep, une association qui défend une médecine indépendante, c'est bien le but recherché.
C'est une nouvelle façon finalement de définir le prix des produits en intégrant dans le prix la valeur de tous ces effets bénéfiques. C'est un peu comme si effectivement un vendeur d'airbag, au lieu de facturer l'airbag au prix des coûts plus des marges, se mettait à le facturer au prix de la vie qu'il sauve lors de son usage.
Et pour promouvoir ce concept un peu nébuleux de valeur en santé, Medtronic investit beaucoup dans la formation de ses cadres. L'un d'entre eux a accepté de nous parler sous le sceau de l'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos et lui affirme qu'on lui a donné des consignes pour influencer les personnages clés du monde de la santé.
On nous a dit, vous rencontrez le directeur d'un hôpital dans l'ascenseur et vous lui faites un elevator speech sur la valeur en santé. Un elevator speech, c'est un argumentaire éclair. On apprend à convaincre en quelques secondes. Après cette formation, on va dans les ministères, dans les agences régionales de santé ou à l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Donc, pour faire la promotion du concept de valeur en santé, Medtronic tenterait d'influencer les autorités de santé.
Oui, et pour ça, Medtronic a aussi créé un cercle de réflexion qui fait la promotion de ce concept. Alors, pour l'instant, Medtronic n'a pas réussi à infléchir le système, mais l'idée fait son chemin. Ainsi, le cercle des économistes, un cercle de réflexion à tendance libérale, écrit lui aussi sur son site internet que c'est la valeur thérapeutique qui doit déterminer le prix d'un médicament, même si ce médicament coûte très peu cher à produire. Et quand on sait que des valves aortiques de Medtronic sont vendues 16 000 euros pièce et remboursées par la Sécurité sociale, malgré des marges d'environ 80%, imaginez le prix qu'elles coûteraient si on appliquait cette nouvelle façon de raisonner.
Merci Laetitia Chérel. Votre enquête est à retrouver sur franceculture.fr. C'était l'une des figures de la Corse, figure du mouvement autonomiste depuis la fin des années 60. Edmond Simeoni est mort aujourd'hui à 84 ans à l'hôpital d'Ajaccio. Portrait de celui qui se présentait comme le défenseur du peuple corse avec Pierre-Louis Sardi de Radio Corse Frequenza Mora.
Marié et père de deux enfants, le docteur Edmond Simeoni a voué son existence à la Corse. Il est considéré comme l'un des pères du nationalisme corse contemporain, avec son frère Max, avec qui il a fondé l'ARC en 1970, pour défendre l'autonomie de la Corse et non son indépendance. Edmond Simeoni s'est d'abord alléré le 21 août 1975, la première action violente et spectaculaire qui se soldera par deux gendarmes morts et un militant blessé dans la cave de Peille. Cette action le propulsera sur le devant de la scène politique et marquera aussi un tournant majeur dans l'histoire du nationalisme corse public et clandestins. Travailleur infatigable malgré quatre pontages coronariens, entièrement acquis à la cause nationaliste, il écrira en 1987 une autocritique dans laquelle il condamne la violence et reconnaît avoir eu tort de l'avoir utilisée et initiée, mais sans jamais avoir cessé de dialoguer avec les clandestins. Après 50 ans de militantisme, il a pu savourer la victoire des nationalistes et de son fils, Gilles, en 2014 à la mairie de Bastia, puis à l'Assemblée de Corse en 2015.
Pierre-Louis Sardi de France Bleu, FCFM pour France Culture. On a aussi appris la mort cet après-midi d'une légende du jazz, Nancy Wilson, maintes fois récompensée et dont la carrière s'est étendue sur des décennies. Elle s'est éteinte à 81 ans en Californie. Le temps de demain froid et perturbé. Dans l'ouest, 8 départements seront en vigilance orange, neige, verglas. Sur la moitié est, le soleil dominera. Quelques flocons sont attendus le soir sur le nord-est. Les minimales iront de moins 6 à moins 2 degrés dans les terres, 3 à 6 degrés sur la façade atlantique au sud de la Garonne et au bord de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Jean-François Braun.